VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du jeudi 19 janvier 2023. Dans l'est de la RDC, les casques bleus ont découvert en Ituri des fosses communes contenant 42 corps, dont 12 femmes et 6 enfants. Au Nigeria, libération des derniers otages de l'attaque d'une gare ferroviaire dans le sud du pays. L'Afrique du Sud a annoncé l'organisation en février de manœuvres communes avec les marines russes et chinoises au large de ses côtes. Un jeune Guinéen installé en France a développé une plateforme de paiement digital afin de faciliter les transactions financières.
Donc nous venons résoudre cette problématique à la fois en Afrique mais également pour sa diaspora.
On découvrira Abdoulaye Barry dans la partie magazine dans un reportage de Thierry Kaori. Journée de grève massive en France où les syndicats rejettent la réforme des retraites. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco. La croissance en Afrique a connu un ralentissement en 2022 selon la Banque africaine de développement. Et pour les sports, nous avons rendez-vous avec Timothée de Nangmaï dans une dizaine de minutes. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. En République démocratique du Congo, la mission de maintien de la paix, la MONUSCO, affirme avoir découvert des fosses communes contenant des corps de civils dans la province de l'Ituri, dans l'est du pays. Les détails avec Rosine Monizero.
Nous avons des nouvelles inquiétantes de notre mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Nos collègues y rapportent que des fosses communes contenant les corps de 42 civils, dont 12 femmes et 6 enfants, ont été découvertes dans le village d'Onyamamba. Une autre fosse contenant les corps de 7 hommes a été découverte dans le village d'Ombogi. Les deux endroits se trouvent à environ 30 km à l'est de Bunia, dans la province d'Ituri. Les soldats de la paix ont lancé une patrouille dans la région immédiatement après avoir reçu des rapports d'attaques contre des civils par les milices Codeco au cours du week-end. C'est alors qu'ils ont fait les macabres découvertes. La MONUSCO soutient le système judiciaire congolais pour enquêter sur ces attaques et demande que les auteurs soient traduits en justice. Ces incidents se sont produits dans un contexte de détérioration significative de la situation sécuritaire dans les régions de Djougou et Mahagi. Depuis décembre 2022, la mission rapporte qu'au moins 195 civils ont été tués et 68 blessés, ainsi que 84 personnes enlevées au cours de plusieurs incidents attribués aux groupes armés Codeco et Zaïre.
Le Rwanda a accusé aujourd'hui Kinshasa d'avoir abandonné un accord visant à ramener la paix dans l'est de la RDC alors que l'escalade verbale continue entre les deux voisins. Évoquant la poursuite des violences, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lalou Tundula, a accusé hier le M23 et le gouvernement rwandais de manquer une fois de plus à leurs engagements. Il a promis que la RDC va sauvegarder son intégrité territoriale et a prévenu que tous les moyens seront mis en œuvre. Le Rwanda a répondu aujourd'hui que cette déclaration constitue une menace et accuse la RDC de chercher à sortir des accords conclus à Luanda et à Nairobi. Les autorités maliennes ont réceptionné aujourd'hui une nouvelle livraison de plusieurs avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie. Le chef de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta et l'ambassadeur russe Igor Gromyko ont pris part à cette cérémonie. La livraison se composait de Sukhoi 25, avions d'attaque au sol et de soutien rapproché de conception soviétique, et d'Albatros L-39, appareil de conception tchèque, initialement destiné à l'entraînement, mais souvent employé comme avion d'attaque, a indiqué l'armée malienne. Il y avait aussi des Mi-8, hélicoptères polyvalents, également de conception soviétique, servant au transport de troupes et de matériel et pouvant être armés pour appuyer les soldats au sol. L'un des chefs de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, a assuré aujourd'hui que son renvoi devant une cour criminelle pour viol présumé ne l'empêcherait pas d'être candidat à la présidentielle de 2024. Monsieur Sonko a à nouveau dénoncé devant la presse une vraie fausse affaire judiciaire, une affaire strictement politique, instrumentalisée par le pouvoir de Macky Sall dans le dessein exclusif d'écarter un candidat qui de loin semble être l'un des mieux placés pour remporter la prochaine présidentielle. Monsieur Sonko est inculpé depuis mars 2021 pour viol et menace de mort sur une employée d'un salon de beauté de Dakar où il allait se faire masser. Le juge d'instruction vient d'ordonner qu'il soit jugé devant une cour criminelle. M. Sonko a toujours clamé son innocence. Soulagement au Nigeria après la libération par les forces de sécurité des derniers otages enlevés dans une gare dans le sud du pays. 7 personnes, dont 2 chefs de village, ont été arrêtées selon les autorités. Abdourahmane Dia.
C'est dans un communiqué que les autorités ont annoncé cette opération qui a permis de libérer les 2 derniers otages de cet enlèvement très médiatisé. Des dizaines de personnes qui attendaient leur train dans l'état d'Edo pour le Wari, plus au sud, ont été enlevées lors de la prise d'assaut de la gare le 7 janvier par des hommes armés. Dimanche, le responsable de l'information de l'état d'Edo, Chris Ossa, a annoncé la libération de 12 des 14 otages restants. Les enlèvements crapuleux sont monnaie courante au Nigeria, monnaie en général dans les états du nord-ouest et du centre du pays. En mars 2022, des hommes armés ont fait sauter une portion de la voie ferroviaire entre la capitale Abuja et Kaduna au nord, tuant 8 personnes et enlevant plusieurs dizaines de passagers relâchés au fil des mois suivant contre rançon. Le service ferroviaire n'a repris qu'en décembre après la libération des derniers otages. La question sécuritaire est au cœur de la campagne électorale pour le scrutin de fin février visant à élire le successeur du président Muhammadu Buhari, qui termine son 2e mandat dans quelques semaines.
L'Afrique du Sud a annoncé l'organisation en février de manœuvres communes avec les marines russes et chinoises au large de ses côtes. Pretoria a toujours refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine. Claire Morin-Gibou.
Ces manœuvres vont mettre en présence plus de 350 militaires sud-africains aux côtés de leurs homologues russes et chinois, dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles. Ces exercices maritimes sont prévus entre le 17 et le 27 février. Selon le communiqué, ils vont se dérouler au large de Durban, le plus grand port d'Afrique australe, et de Richards Bay, quelques 180 km plus au nord, afin de renforcer les relations entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine. C'est la seconde fois qu'un tel exercice se déroule en présence des 3 forces navales. Le premier a eu lieu en novembre 2019 au Cap, en Afrique du Sud, rappelle l'armée. L'Afrique du Sud, une des puissances du continent, a affiché une position de neutralité depuis le début de l'invasion russe, refusant de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou.
En Algérie, l'ex-ministre de l'énergie, Chakib Khelil, en poste pendant 10 ans sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, a de nouveau été condamné ce jeudi par contumace à 20 ans de prison ferme pour corruption. Selon l'agence APS, la justice algérienne a également condamné d'autres anciens hauts responsables à des peines allant de 5 à 10 ans de prison ferme.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France fait face à une grève massive contre un projet de réforme du gouvernement visant à reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Cette grève a provoqué d'importantes perturbations des transports publics et de nombreux bouchons dans toute la France. Mohamed Oumfa.
Selon une carte des mobilisations publiée par la Confédération générale du travail, plus de 200 actions sont prévues dans toute la France. La mobilisation est au-delà de ce qu'on pensait, s'est félicité Laurent Berger, secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail. Au-delà des manifestations, l'appel à la grève a été massivement suivi dans plusieurs secteurs. Les perturbations ont été importantes dans les transports, où la SNCF, comme la RATP, avait appelé les voyageurs à différer leur trajet. Dans l'enseignement, la mobilisation était également forte, avec 34% des grévistes dans les collèges et lycées et 42% dans le primaire, selon les chiffres du ministère de l'Éducation. À l'initiative de plusieurs organisations syndicales, cette journée de contestation veut faire dérailler le projet du gouvernement qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans en 2030. Le gouvernement prévoit de présenter sa réforme en Conseil des ministres le 23 janvier avant un examen prévu début février à l'Assemblée nationale.
Et l'Ukraine a appelé ce jeudi l'Occident, à la veille d'une réunion cruciale, à cesser de trembler devant Poutine et a considérablement augmenté ses livraisons d'armes, notamment de chars lourds, pour pouvoir vaincre l'armée russe. À l'inverse, la Russie a martelé que le transfert à Kiev d'armement de plus longue portée capable de frapper en profondeur son territoire entraînerait une escalade, alors que Vendredi se réunit le groupe de contact pour l'Ukraine afin de coordonner la poursuite de l'aide militaire occidentale. Et puis, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a accusé aujourd'hui le forum de Davos de réunir les gens qui alimentent le plus la destruction de la planète, jugeant absurde de les écouter. Davos est l'endroit où sont les gens qui alimentent le plus la destruction de la planète, les gens qui sont en plein cœur de la crise climatique, les gens qui investissent dans les énergies fossiles, etc., a-t-elle notamment relevé. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monezero.
En RDC, le gouvernement a publié mercredi soir les noms des sociétés qu'il a sélectionnées à l'issue d'un appel d'offres pour exploiter 3 blocs gaziers du lac Kivu dans l'est du pays. Il s'agit de Symbion Power and Red pour le bloc D Makelele, Wind Exploration and Production LLC, bloc Ijui et Alpha Jerry Energy Corporation, bloc Luanjofu. Les 2 premières sociétés ont leur siège aux États-Unis, la 3e au Canada. La croissance en Afrique a connu un ralentissement en 2022 et l'inflation est au plus haut depuis plus d'une décennie, souligne un rapport publié jeudi par la Banque africaine de développement. La croissance moyenne estimée du PIB réel a ralenti, passant de 4,8% en 2021 à 3,8% en 2022 et devrait se stabiliser à 4% en 2023 et 2024, précise la BAD, qui salue toutefois la résilience économique des pays africains malgré les incertitudes mondiales. Meta, maison mère de Facebook, s'est vu infliger jeudi une amende de 5,5 millions d'euros du régulateur irlandais pour avoir enfreint le règlement européen sur les données avec sa messagerie WhatsApp. La commission irlandaise estime que le géant numérique n'a pas respecté ses obligations en matière de transparence et se fondait sur une base juridique erronée pour son traitement des données personnelles à des fins d'amélioration du service et de sécurité.
Nous ouvrons maintenant la page des sports et c'est avec Timothée Donangmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Jean-Roger.
Suite du championnat d'Afrique des Nations Total Énergie Algérie 2022 avec le match du groupe C opposant le Ghana au Soudan. C'est à partir de 19h.
Il faut souligner Jean-Roger qu'avec le forfait du Maroc, ce groupe est réduit à 3 équipes, les 2 meilleures avançant en phase à élimination directe. C'est donc un match crucial pour les jeunes Soudanais, mais surtout les jeunes Ghanéens qui s'étaient inclinés devant leurs homologues malgaches en première journée. L'équipe soudanaise mise sur la vigilance et la concentration pour ce match, consciente que les Ghanéens tenteront de rebondir après leur défaite, a expliqué le sélectionneur du Soudan, Burhan Eldin Tia.
Je rappelle que le match est à 19h, temps universel. Hier, les Ougandais ont surpris les Sénégalais, réduits à 10 pour maintenir l'espoir d'avancer dans la compétition.
Le pénalty manqué de Cheikh Sidi Bé en première mi-temps n'augurait rien de bon pour les Lionceaux du Sénégal. Le capitaine ougandais Milton Karissa en profitera pour marquer l'unique but de la partie. L'expulsion à la 83e minute du remplaçant sénégalais Libas Ngom donnera aux Ougandais l'avantage numérique pour défendre leur avantage jusqu'à la fin de la partie. La RDC et la Côte d'Ivoire ont fait match nul, 0 but partout. Du coup, l'Ouganda prend la tête du groupe avec 4 points, suivi du Sénégal 3 points et la RDC 2 points.
La phase de groupe se poursuit vendredi, demain, avec les matchs Angola-Mauritanie et la République du Congo face au Niger.
Défait par les Camerounais 1-0 lors de leur premier match, les jeunes Congolais ne perdent pas espoir pour autant. Leur coach Jean-Élie Ngoya Obakas espère un rebond face au Niger qui fera son entrée en compétition. Nous avons passé en revue nos erreurs lors du premier match et travaillé sur les solutions que nous pouvons apporter, a-t-il assuré en conférence d'avant-match. L'Angola qui a 1 point affronte la Mauritanie dont ce sera le premier match.
La NBA maintenant et la France se concertent sur le développement du basketball.
Le président français Emmanuel Macron et le président de la NBA, la Ligue nord-américaine de basketball, Adam Silver, ont annoncé hier un plan de collaboration sur plusieurs initiatives de développement du basket en France et en Afrique. Dans ce cadre, la NBA et l'Agence française de développement œuvreront pour le financement des projets de développement dans les pays en développement, y compris les infrastructures de basket.
Page des sports VOA Afrique, signé Timothée Donangmaï. Nous sommes donc jeudi 19 janvier 2023.
Alors Jean-Roger, il faut souligner que la France, en dehors de l'Amérique du Nord, la France est le pays qui fournit le plus de joueurs à la NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Plusieurs personnes sont portées disparues après un naufrage causé par une collision d'une embarcation avec un radeau de bois dans la nuit de mardi à mercredi près de Bansakoussou dans la province de l'Équateur. Le gouverneur de la province ne donne pas de bilan, mais la société civile parle de plus de 100 morts. Eddie Sango a joint à Bansakoussou le président de la société civile, Jean-Louis Wangela.
Des rescapés m'auraient dit que les vivants peut-être dans les 55, donc ils étaient plus ou moins 200 personnes. On peut dire que les centaines de gens sont décédés avec leurs biens. Donc dans plus de 100 et quelques 100, plus ou moins 145 personnes ne se voient plus. Les enfants, des femmes, il y a d'autres qui devaient aller étudier à Bandaka. Vraiment, il y a aussi des responsables. Vraiment, il y a beaucoup de gens. Actuellement ici, il y a des belles générales.
Et quand vous dites qu'ils ne se voient pas, est-ce qu'on a déjà ramassé les corps? Est-ce qu'on, en fait, ils sont décédés ou ils sont simplement portés disparus?
Donc les gens qui étaient venus, il y a des rescapés, ils ont dit qu'il y a d'autres cadavres qu'on a, on commence à retrouver. Et d'autres, ce moment est prévu, qu'il faut 48 heures pour que les cadavres se retrouvent. Donc il y a une situation qui est vraie vraiment ici, chez nous, que la pirogue a causé un naufrage, d'autres victimes commencent à se voir, et il y a d'autres cadavres qui ne se voient même pas. Il y a des sécurité étaient les matins, et nous aussi.
Combien de corps ont-ils été déjà retrouvés?
C'est dans les dizaines de corps qui sont retrouvés. Alors il faut que nous devons être demain sur le terrain. Demain nous serons là sur le terrain. Je vais envoyer quelqu'un de la société civile avec le comité de sécurité. Ils seront là vers les matins. On est occupé le soir, mais il y a un problème de climat. Alors on s'est entendu avec la tête que demain à 9h, il faut qu'on puisse descendre. Je vais envoyer quelqu'un là-bas pour parcourir cette réalité sur le terrain.
Qu'est-ce qui a causé l'accident? Comment l'accident s'est-il produit?
L'accident a causé, je vous ai dit que c'est... Vous voyez, ici, nous avons des difficultés pour l'embarquement. Les moyens de transport sont difficiles. C'est avec des pirogues qui aident les gens. C'était une pirogue, là, c'était deux pirogues. Et ça a causé surchargement. Il y a eu un moment, donc les services concernés n'ont pas contrôlé, ce n'est pas réglementé. Il y a eu un moment surchargement. Donc il y a eu beaucoup de gens, il y a beaucoup de matériel, c'est ça qui a causé ça. Et c'était vers 24 heures, c'était à minuit que cet accident a causé.
Donc il y a eu collusion entre ce qu'on appelle deux baleineurs. Deux baleineurs, c'est des grosses pirogues où il y a des gens qui sont avec pirogue motorisée, c'est ça? Il y a eu collusion?
Là, il y a eu nos forces côté dit avec de l'eau. L'eau, parce que les baleiniers, là, cette pirogue n'était pas bon état. L'eau a pénétré. Dès que d'habitude, quand ils naviguent, ils évacuent de l'eau. Et les gens qui étaient là, cette service, ils n'ont pas pu faire ce service-là. L'eau a pénétré jusqu'à arriver dans les 1 mètre, 2 mètres. C'est ça la cause. Donc, l'eau est entrée, et ça, vers minuit, et ça s'est surchargé encore. Et c'était vraiment au milieu de la rivière. Donc, il était impossible, mais les rescapés, c'est grâce à Dieu qu'ils se sont sauvés.
C'était Jean-Louis Wangela, président de la société civile à Bansakoussou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, en RDC, à Lubumbashi, évidemment, sur le 102.8 FM.
Combattre l'extrémisme violent en Afrique et plus particulièrement au Sahel par la multiplication des initiatives de paix sur le continent, c'est le vœu des participants à la troisième conférence africaine sur la paix qui prend fin ce jeudi à Nouakchott. Un défi qui pourrait se heurter à l'absence d'une stratégie de sécurité commune. La correspondance de Mohamed Diop dans la capitale mauritanienne.
La conférence africaine sur la paix, par le biais de son initiateur, Cheikh Abdellah Ben Beya, président du Forum de Dubaï pour la paix, appelle les gouvernements, intellectuels et peuples africains à s'inscrire dans une dynamique de paix par la multiplication des initiatives de paix à travers le continent. Cela pour vaincre l'extrémisme violent. Un tel défi n'est toutefois relevable que par la mutualisation des stratégies antiterroristes. Ce que préconise l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, parmi les panélistes de la rencontre.
Il est temps que l'Afrique comprenne que le défi qui est devant nous doit être relevé. Il faut qu'on se donne les moyens. Et nous, notre vision, c'est que ça passe par la mutualisation. Arrêtons de proposer des solutions individuelles par pays. Ce qu'on appelle stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, moi, ça me pose problème. Les terroristes n'ont pas de stratégie nationale, ils ont une stratégie globale. Pourquoi on ne peut pas, encore une fois, en Afrique, mettre nos forces ensemble, nos esprits, nos cerveaux ensemble, nos moyens ensemble, pour nous occuper de cette question, de ce défi qui a commencé avec la Libye, le sud de l'Algérie. Aujourd'hui, ils sont à Cabo Delgado, au Mozambique.
Encore, la paix en Afrique n'est pas seulement une question de riposte militaire. Il faut aussi vaincre le combat d'idées, notamment chez les jeunes générations, ajoute l'ancien ministre.
Il y a une bataille, une guerre des mentalités. Et les jeunes sont des cibles, justement, de ces gens qui veulent les pervertir, les amener vers le pessimisme. Combien de jeunes ont renoncé à tout espoir, à tout rêve de devenir quelque chose, quelqu'un en Afrique? Des jeunes qui ne rêvent que de partir. Que de partir. Parce que c'est comme si on leur a dit, vous n'avez rien à attendre de votre continent, de ses richesses, de sa beauté, etc. Votre avenir est ailleurs. Ce n'est pas vrai. Leur avenir, leur destin, c'est l'Afrique.
Léa fait partie de ces jeunes qui assistent à la conférence.
Les forces armées qui sont là pour notre sécurité, c'est bien, mais il faut absolument restaurer le dialogue entre les jeunes et la gouvernance. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que c'est les jeunes qui sont les acteurs, c'est les jeunes qui sont notre avenir, et sans eux, rien n'est possible.
L'invité d'honneur de la 3e édition de la conférence est le président nigérian, Muhammadu Buhari, dont le pays fait face au groupe djihadiste armé Boko Haram qui menace la paix. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'Afrique du Sud a annoncé ce jeudi qu'elle va organiser le mois prochain des exercices maritimes conjoints de 10 jours avec la Russie et la Chine. L'Alliance démocratique, parti d'opposition, a critiqué cette décision alors que le parti au pouvoir s'est rangé du côté du gouvernement. Le reportage de Kate Bartlett depuis Johannesburg, le récit avec Idriss Fall.
Les exercices Afrique du Sud, Chine-Russie, baptisés Opération Mossi, qui signifie fumée, vont se dérouler au large de Durban du 17 au 26 février. Si l'Afrique du Sud a déjà organisé des exercices conjoints avec la Russie par le passé en 2019, ces derniers coïncident avec le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Pretoria est officiellement resté neutre, refusant de condamner l'invasion russe lors d'un vote de l'ONU l'année dernière. Mais le principal parti d'opposition sud-africain, l'Alliance démocratique, estime que le pouvoir a choisi son camp. Cobus Marais est chargé des questions de défense au sein de ce parti.
Alors que notre gouvernement a prétendu être neutre, voici un autre des nombreux actes où l'ANC expose clairement son favoritisme envers la Russie et ne fait rien d'autre que montrer et prouver le manque de neutralité du gouvernement dans cette affaire.
L'invasion de l'Ukraine a été largement condamnée au niveau mondial. Les gouvernements occidentaux ont imposé à la Russie un isolement diplomatique ainsi que de lourdes sanctions et fourni des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Steven Gerst est responsable du programme Russie-Afrique à l'Institut sud-africain des affaires internationales. Il estime qu'en accueillant ces exercices, l'Afrique du Sud risque de s'isoler davantage et faire le jeu de la Russie.
La Russie essaie d'indiquer qu'elle n'est pas isolée sur le plan international et qu'elle a une portée militaire. Et l'Afrique du Sud, en acceptant d'organiser ces manœuvres, alimente le récit de Moscou.
L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud entretient des liens idéologiques et historiques étroits avec la Russie. L'ex-Union soviétique a soutenu sa lutte contre l'apartheid. L'Afrique du Sud et la Russie sont aussi membres des BRICS, qui regroupent les principales économies émergentes dont le Brésil, l'Inde et la Chine. Si de nombreux pays ont critiqué l'invasion russe de l'Ukraine, certaines nations, dont celle du BRICS, ne l'ont pas fait. L'ambassadrice d'Ukraine en Afrique du Sud, Lyubov Arabitova, a dénoncé vivement ces exercices militaires.
And on South Africa, China, Russia, military exercises.
Pour ces exercices militaires entre l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine, laissez-moi simplement vous demander ce qu'une armée qui tue des innocents, une armée de violeurs et de meurtriers peut apporter à l'armée sud-africaine comme valeur ajoutée.
Certains analystes estiment que le monde vit une sorte de nouvelle guerre froide, avec d'un côté les nations autoritaires que sont la Chine et la Russie, et de l'autre les démocraties occidentales. Réaction du porte-parole du ministère sud-africain de la Défense, Sifue Dlamini.
Je tiens à répéter que l'exercice aura lieu avec les deux pays en Afrique du Sud en février. En ce qui concerne les relations militaires avec ces deux pays et beaucoup d'autres, dont les États-Unis, des exercices ont eu lieu avec chacun de ces pays.
Malgré toutes les pressions, Pretoria a continué à améliorer ses relations avec Moscou. En décembre, l'Afrique du Sud a reçu un navire russe qui livrait des munitions commandées avant l'invasion de l'Ukraine. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Grace Naledi Mandisa Pandor, accueille lundi son homologue russe, Sergei Lavrov. En août prochain, l'Afrique du Sud va accueillir le sommet des BRICS et a invité le président russe Vladimir Poutine.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Selon le rapport annuel sur la situation de l'inclusion financière dans l'UMOA, publié en novembre dernier, le taux de bancarisation stricte est passé de 19% en 2020 à seulement 21,8% en 2021. Des chiffres qui témoignent de la faible accessibilité des populations aux services bancaires en Afrique. Pour résoudre le problème, un ressortissant guinéen installé en France a développé une plateforme de paiement digital afin de faciliter les transactions financières en Afrique, notamment dans les zones les plus reculées, mais aussi pour sa diaspora. Thierry Kaoré l'a rencontré à Las Vegas lors du Salon international de la technologie CES. Reportage.
Offrir aux Africains la possibilité, où qu'ils soient, de participer à la construction d'une nouvelle économie africaine, tel est le leitmotiv de la plateforme YMO. Plus besoin de cash pour faire le plein d'essence, payer une course de taxi ou régler vos factures. YMO propose un système de paiement électronique instantané et sécurisé. En créant cette plateforme, le PDG Abdoulaye Bari, expert en informatique, dit vouloir aider les populations à utiliser moins de liquidités et avoir accès aux services bancaires.
En Afrique, il y a encore plus d'un milliard de personnes qui dépendent énormément de cash. Donc, ils ne peuvent pas recevoir leur salaire si ce n'est pas en ayant recours à du cash. Cela a comme impact qu'ils n'ont pas de track record parce qu'aucune institution financière ne connaît leurs revenus. Donc, nous venons résoudre cette problématique à la fois en Afrique, mais également pour sa diaspora.
Selon Sandes Alia, chargé de marketing de YMO, ce service est surtout bénéfique pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire en Afrique.
Nous cherchons vraiment à résoudre le problème d'inclusion financière. C'est notre mission principale. Et autour de cela, Barry, notre PDG, a développé toute cette idée pour pouvoir vraiment aider les personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires.
Conçu par un Africain pour l'Afrique et sa diaspora, la plateforme YMO se donne pour mission d'être la solution digitale de paiement et d'inclusion financière panafricaine. Yann Chapuy est investisseur à YMO.
Je pense que nous prenons en compte la situation locale et les problèmes locaux, donc ce n'est pas juste une grande entreprise étrangère qui apporte ses solutions en Afrique. Nous nous soucions des besoins des gens et de leur inclusion.
Créée en 2019, l'application YMO, disponible sur Play Store et App Store, fonctionne en Europe, en Guinée et compte plus de 500 000 clients. Les promoteurs veulent aller encore plus loin et ouvrir des agences dans 10 autres pays, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et les États-Unis.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.